Christian Garcin, c'est une lecture paradoxale, je pense, que tu fais de Cortazar. C'est à toi.
Merci. Je vais commencer par lire un extrait du roman Les Gagnants.
Pardon, Christian. Christian, je l'ai fait pour Geneviève Brisac, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas pour Christian. Christian Garcin a publié cet automne, Selon Vincent, chez Stock, et c'est un texte important.
Non. Je vais donc commencer par la lecture d'un passage, d'un extrait des Gagnants, à la suite de quoi je lirai mon texte. Comme vous le savez sans doute, la scène se déroule sur un bateau, c'est une croisière, et le passage choisi met en scène trois personnages, deux hommes nommés Persio et Medran, et une jeune femme, une charmante jeune femme nommée Claudia. « Vous aimez voyager ?» demanda Medran. « Oh, vous savez, je passe mon temps à voyager. » « Il veut parler du métro, » dit Claudia. « mais non, je voyage dans l'infra-espace et dans l'hyper-espace, » dit Persio. « Ce sont deux mots stupides qui ne signifient pas grand-chose, mais je voyage. Mon corps astral, du moins, parcourt des distances vertigineuses. Moi, pendant ce temps, je reste chez Kraft à corriger des épreuves. Tenez, cette croisière va m'être très utile pour les observations stellaires et le déchiffrage des signes astraux. Vous savez ce que pensait Paracels ? Que le firmament est une pharmacopée. Jolie, n'est-ce pas ? Et maintenant, je vais avoir toutes les constellations à portée de main. » Jorge dit qu'on voit mieux les étoiles en mer que sur terre. Il passe indifféremment de Paracels à Jorge, dit Claudia en riant. Jorge sait des choses, ou plutôt il est le porte-parole d'un savoir qu'il oubliera par la suite. Quand nous faisons ensemble des jeux magiques, les grandes provocations, il trouve toujours plus que moi. La seule différence, c'est qu'il est vite distrait, comme un oustiti ou une tulipe. Si je pouvais le retenir un peu plus longtemps sur ce qu'il perçoit, mais l'activité est une loi de l'enfance, comme disait Fechner ou quelqu'un dans le genre. Le problème, évidemment, c'est Argus, toujours Argus. Argus ? Dit Claudia. Oui, le multiface, le 10 000 lieues, le simultané. C'est cela, le simultané, s'écria Persio avec enthousiasme. Quand je prétends m'annexer la vision de Jorge, est-ce que je ne dénonce pas la plus terrible nostalgie de notre race ? Voir par d'autres yeux, être à la fois mes yeux et les vôtres. Claudia, si beau. Et ceux de ce monsieur, si expressif. Tous les yeux à la fois, parce que cela tuerait le temps, cela le liquiderait d'un coup. Adieu, Oust, fichez le camp. Et il fit le geste de chasser une mouche. Vous vous rendez compte si je voyais simultanément tout ce que voient les yeux de la race humaine, les 4 milliards d'yeux de la race humaine, la réalité ne serait plus successive, elle se pétrifierait en une vision absolue où le moi disparaîtrait, annihilé. Mais cet anéantissement, quelle flamme triomphale, quelle réponse! Impossible à partir de cet instant de concevoir l'espace, et moins encore le temps, qui est la même chose, sous une forme successive. Mais si vous surviviez à pareil coup d'œil, dit Medran, vous recommenceriez à sentir le temps, vertigineusement multiplié par le nombre de ces visions partielles, mais toujours le temps. Oh, elle ne serait pas partielle, dit Persio en haussant les sourcils. Mon idée, c'est d'englober tout le système cosmique en une synthèse totale, ce qui n'est possible qu'en partant d'une analyse également totale. Vous comprenez, l'histoire humaine est la triste résultante de 1000 visions séparées. Chacun regarde pour soi. Le temps naît dans les yeux, c'est connu. Il sortit une brochure de sa poche et la consulta fébrilement. Medran, qui allumait une cigarette, vit apparaître le chauffeur Le Don Gallo à la porte, qui observa un moment la scène, puis s'approcha du barman. Avec un peu d'imagination, on peut se faire une lointaine idée d'Argus, disait Persio en tournant les pages de sa brochure. Moi, par exemple, je me livre à de petits exercices de ce genre. Cela ne sert à rien car c'est de la pure imagination, mais cela éveille mon sens du cosmique. Cela m'attache un peu à la pesanteur sublunaire. La couverture de la brochure portait le titre de « Guía oficial dos caminos de ferro de Portugal ». Persio agita l'indicateur des chemins de fer comme un drapeau. « Si vous voulez, je vais vous faire une démonstration. On peut aussi employer un album de photos, un atlas, un annuaire de téléphone. Ce qu'il faut, c'est arriver à se déployer dans la simultanéité, s'évader au moment de ce lieu. Vous allez comprendre. Heure légale, 22h30. Nous savons que ce n'est pas l'heure solaire et que nous avons 4 heures de retard sur l'heure portugaise. » Mais il ne s'agit pas d'établir un horoscope, il s'agit simplement d'imaginer qu'il est environ 18h30 au Portugal. Une belle heure pour le Portugal avec toutes ces mosaïques qui brillent. Il ouvrit résolument l'indicateur, page 30. La grande ligne du Nord, nous y sommes, regardez bien. Au même moment, le train 125 est entre Mealada et Aguim. Le train 324 va partir de Torres Novas. Il s'en manque exactement d'une minute, de beaucoup moins en réalité. Le train 326 entre en gare de Sonselas et le 2721 vient de quitter Quinta Grande. Vous commencez à comprendre ? Mais 30 secondes se sont déjà écoulées, c'est-à-dire que nous avons à peine eu le temps d'imaginer 5 ou 6 trains. Il y en a cependant beaucoup plus. Le 4111 des lignes Est est entre Monteredondo et Guia. Le 4373 est arrêté à Leira. Le 4121 va arriver à Paul. Et la ligne de l'Ouest ? Le 4026 a quitté Martingacao et passe à Patayas. Le 4028 est arrêté à Coimbra, mais la seconde passe et le 4735 arrive à Veride. Le 1429 à partir de Pampillosa. Le chef de gare a sifflé, il part. Et le 1432 arrive en gare de Casal. Dois-je continuer ? Non, Percio, dit Claudia attendrie. Buvez votre limonade. Mais vous avez saisi, n'est-ce pas ? C'est un exercice qui tend... Oui, dit Medran, cela me donnait un peu comme une vision aérienne de tous les trains du Portugal. N'était-ce pas le sens de cet exercice ? Il s'agit d'imaginer que l'on voit, dit Percio en fermant les yeux. Effacer les mots et voir seulement comment en ce moment, sur un seul petit morceau du globe, une quantité inimaginable de trains en marche. Ensuite, peu à peu, imaginer les trains d'Espagne, d'Italie, tous les trains qui en ce moment, à 18h32, sont à tel endroit, arrivent à tel endroit, partent de tel endroit. Cela me fait tourner la tête, dit Claudia. Ah non, Percio, pas ce premier soir et devant un pareil cognac. Mais l'exercice sert à toute autre chose, expliqua Percio, à des fins magiques notamment. Avez-vous pensé au dessin ? Si sur cette carte du Portugal, nous marquons tous les points où il y a un train à 18h30 et les relions entre eux, il peut être intéressant de voir quel dessin on obtient. Modifier le dessin de quart d'heure en quart d'heure et observer par comparaison ou superposition comme il s'altère, se perfectionne ou s'abîme. En y travaillant, mais au moment de liberté, chez Kraft, j'ai obtenu des choses curieuses. Je ne suis pas loin de penser qu'un jour je verrai naître un dessin qui correspondra exactement à une œuvre célèbre. Une guitare de Picasso ou un compotier de Petrucci, par exemple. Si cela arrive, j'aurai alors une clé, un module. Et je pourrai considérer la création à partir de sa véritable base analogique. Je romprai avec l'espace-temps, qui est une invention farcie de défauts. Le monde est magique, alors ? Demanda Medran. La magie elle-même est déformée par nos préjugés occidentaux, dit Percio avec amertume. Pour pouvoir en arriver à une formule de la réalité cosmique, il faudrait être retraité et avoir tout son temps pour étudier la pharmacopée sidérale et palper la matière subtile. Que voulez-vous faire avec la semaine de 40 heures ? Eh bien, je souhaite que le voyage vous laisse tout le temps d'étudier, dit Claudia en se levant. Je commence à éprouver une bienheureuse torpeur de touriste. À demain. Merci. Alors, le texte qui va suivre, nous sommes convoqués ici pour parler de nos lectures de Cortázar. En ce qui me concerne, ce sera plutôt une non-lecture de Cortázar. Ou quasi. D'emblée, ma relation avec Julio Cortázar a été placée sous le signe du paradoxe et celui de la complexité. Pour commencer, un mouvement de recul. Il m'a dès le début impressionné. Je parle de son visage. Car avant même de le lire, je connaissais son visage. Je ne sais d'ailleurs comment il est possible que j'ai connu tant de visages d'écrivains, de Joyce à Kafka, en passant par Beckett, Borges, Cortázar, Hemingway, Faulkner, avant de les lire, alors que j'étais adolescent dans une famille où on ne lisait pas, ou peu. Mais il se trouve que je connaissais les yeux de Cortázar, ces grands yeux de chat, que j'imaginais verts d'eau, presque transparents, et qui mangeaient un visage juvénile, quoique âgé d'une bonne cinquantaine d'années, sur la photo à laquelle je pense. Et je l'ai trouvé, ces yeux, très inquiétants. Je crois même que j'en ai rêvé quelquefois. Pour moi, sur cette photo en tout cas, c'était des yeux dévorateurs, dont je me suis dit plus tard qu'il m'avait longtemps dissuadé de le lire. Sur d'autres photos plus tardives, c'est sa barbe de révolutionnaire cubain qui m'impressionnait. Et l'ensemble, barbe trop fournie, grands yeux clairs de chat, le tout surplombant une longue silhouette efflanquée, me semblait non seulement peu réussi esthétiquement, ce qui bien entendu reste discutable, mais surtout, encore une fois, assez inquiétant. Je n'ai pas d'explication cohérente à fournir là-dessus. Mais l'ensemble, je dois le reconnaître, m'éloignait a priori de lui. De plus, je connaissais à Aix-en-Provence une dame qu'il avait bien connue, dont je me disais d'ailleurs qu'elle en avait été un peu amoureuse, et qui parlait souvent de lui en l'appelant par son prénom. Mais comme elle ne parvenait jamais à prononcer correctement la Jota, Julio se métamorphosait en Julio, avec un H puissamment soufflé du profond de la gorge, qu'elle faisait parfois siffler, ce qui accentuait encore l'inquiétante étrangeté de ce type apparemment si séduisant et à la haute et maigre carcasse dominée par une barbe trop fournie qu'éclairait un vaste et clair regard de félin. Julio, par la suite, je l'ai approché de loin, ses livres, je veux dire, de très loin même, et sans doute de trop loin. En fait, je ne l'ai jamais vraiment beaucoup fréquenté, bien qu'on ait cessé de me dire que ce livre était fait pour moi, que je m'y reconnaîtrais, que j'y plongerais avec délice et ne pourrais plus le lâcher une fois ouvert. J'imagine d'ailleurs que c'est cette proximité supposée qui est à l'origine de ma présence ici aujourd'hui. Et je ne sais si cela est dû au mystérieux pouvoir que j'ai longtemps prêté à ses yeux de chat ou à celui de sa littérature, car si nous ne choisissons pas nos thèmes, comme disait Borges, mais que ce sont eux qui nous choisissent, certains de ceux de Cortázar ont pu m'agripper sans que je m'en rende compte par l'effet de leur proximité avec ce qui moi-même m'animait, ou alors une étroite connivence entre les deux, mais il se passe en tout cas avec lui quelque chose de surprenant que je n'ai expérimenté avec aucun autre écrivain à ce jour. C'est une relation de familière étrangeté ou de lointaine proximité, d'incessants allers-retours entre l'infiniment proche et le très éloigné, comme pourrait l'illustrer cette phrase d'Antonio Tabucchi à son sujet. Je ne sais si cet écrivain est un microscope ou une lorgnette inversée, il est souvent les deux à la fois, dans le même récit, la même page, ce qui revient à dire qu'il crée un unheimlich inédit, un hyper-perturbant, ce qui était infiniment petit acquiert des dimensions inhabituelles, et ce qui encombrait massivement l'espace s'éloigne à une distance stellaire. Mon très cher ami et éditeur, J.B. Pontalis, m'avait dit un jour « Comment, tu n'as jamais lu Cortázar ?» qu'il prononçait plutôt à la française, en accentuant la dernière syllabe, Cortázar. « Mais c'est fait pour toi. » J'avais donc acheté Marelle, le seul titre de lui que je connaissais, avait commencé à le lire et n'avait pas terminé. Je l'avoue, non sans honte, ces jeux me fatiguaient un peu. Chacun sait qu'il y a des moments propices pour lire tel ou tel livre. Pour moi, le moment de Marelle n'était pas encore arrivé. Quelques mois ou années plus tard, une autre personne, toujours chez Gallimard, me dit « Comment, vous n'avez pas lu Cortázar ? Mais c'est fait pour vous. » Il me met dans les mains l'intégralité des nouvelles dans la collection du monde entier. Malheureusement, le livre n'allait pas. Intransportable, peu pratique, trop lourd, trop épais, rien n'y engageait à la lecture. Je n'ai même pas essayé. Pour tout dire, et il trône depuis sur une étagère de ma bibliothèque, aussi imposant que vierge de tout regard. Aussi impressionnant que la grande carcasse efflanquée aux yeux de chat. Mais j'avais fort bien entendu ces deux avis concordants. Cortázar était donc fait pour moi. J'achetais un volume de nouvelles en format poche, au hasard, le premier que je trouvais, dans la première librairie que je trouvais. Il s'agissait des Armes secrètes. Je lus la première nouvelle, n'accrochais pas, laissais tomber. Comme le dit François Bon au sujet du même Cortázar, mais à propos de sa lecture dans notre recueil de nouvelles, Chronobes et fameux, ça n'avait pas percuté, ou ça avait percuté dans la raison, sans déployer les vertiges et miroitements de Borges. C'était un peu ça. Bref, cela semblait pour le moins mal engagé. Des années plus tard, un ami, qui avait d'ailleurs été pressenti pour participer à cet après-midi, mais qui avait d'autres engagements aujourd'hui, me parla à nouveau de Cortázar. Ces livres, sans surprise aucune, étaient faits pour moi. Mais contrairement à ce que m'en avaient dit ceux qui jusqu'alors m'avaient vanté sa littérature, il ne mentionna ni son roman le plus connu, Marelle, ni ses nouvelles, mais un roman dont je n'avais pour ma part jamais entendu parler, je l'ai dit, je connaissais peu Cortázar, Les Gagnants, dont je viens de lire un extrait. Et ce qu'il m'en dit me laissait penser qu'en effet, je pourrais trouver là-dedans de quoi alimenter mes propres préoccupations littéraires et existentielles, voire métaphysiques. Je lus donc Les Gagnants et crus en effet déceler par moments, comme en un éclat bref de joaillerie, dans l'extrait que j'ai lu par exemple, la pierre d'angle qui pouvait, selon quelques personnes, faire le lien entre l'œuvre de Cortázar et certains de mes livres. Sur ma lancée, je repris les Armes secrètes, où figurent notamment les fils de la Vierge et l'homme à l'affût, comprenant là encore, par exemple dans la notion de temps dilaté présente dans cette dernière nouvelle, ce qui pouvait peut-être laisser penser à certains que l'œuvre de cet écrivain était à même de me toucher profondément. Pour définir plus ou moins en quoi pourrait consister ce socle de préoccupations communes, j'aimerais convoquer à présent un astrophysicien et un rugbyman. L'astrophysicien est Étienne Klein et le rugbyman Johnny Wilkinson, international anglais ayant évolué au poste de demi d'ouverture du Racing Club de Toulon. Donc Klein indique quelque part qu'il était féru de physique quantique, caractéristique que j'imagine à tort peut-être assez peu fréquente chez le rugbyman. Wilkinson était féru de physique quantique ou de ce qu'il en comprenait, dit Klein. Il s'en servait plutôt comme d'une manière d'interpréter le monde. Il a développé une vision holistique, une vision peu commune qui consiste à interpréter la façon dont les particules interagissent entre elles. Selon elle, le monde correspondrait à une entité globale, avec des gens reliés les uns aux autres par des fils invisibles, qui font que leurs comportements, en apparence très disparates et chaotiques, sont en fait très cohérents. Les romans et récits de Cortázar témoignent-ils eux aussi d'une vision holistique? Probablement, si l'on en croit l'extrait plutôt emblématique des Gagnants que je viens de lire. Ils considèrent le monde qu'ils mettent en scène comme une totalité dont les éléments sont reliés par des passerelles invisibles, au contraire de ce que serait une vision réductionniste qui le présenterait comme divisé en plusieurs parties indépendantes. La vision néolibérale, par exemple, est réductionniste. Cloisonnante, elle tend à morceler le monde et à emprisonner l'individu dans un carcan technologico-consumériste qui l'isole et l'empêche de penser le monde dans sa globalité, penser la complexité, la simultanéité, le jeu des causalités. Et il est vrai que dans cette notion de littérature comme de monde holistique, je me reconnais tout à fait. Pour autant, j'ai assez peu lu Cortázar. En revanche, j'ai lu pas mal de textes sur Cortázar et d'entretiens avec Cortázar. Je les ai lus en crayon à la main et en passant mon temps à tout souligner ou presque. À chaque fois, en effet, la proximité entre ses propos, sa conception de la littérature et du monde et ma propre manière de concevoir tout cela me sautait littéralement aux yeux, à tel point que j'aurais pu sans sourciller copier-coller de nombreux passages pour les envoyer en guise de réponse à telle revue ou tel magazine qui me proposait un entretien par écrit. C'est donc cette lointaine proximité, cet étrange grand écart entre la connaissance réelle que j'ai de l'œuvre de Cortázar, qui est très faible, et le retentissement que provoquent en moi les propos et considérations que j'ai pu lire de lui ou à son sujet, qui est énorme, c'est ce grand écart donc qui n'a cessé de m'interroger. Je vois Cortázar, Julio, me fixer de ses grands yeux de chat et me demander « Mais pourquoi ne me lis-tu pas? Je suis fait pour toi ». Et pour tenter de résoudre cet étrange dilemme, j'en suis venu, qu'on veuille bien me le pardonner, à convoquer cette fois un écrivain, argentin lui aussi, et que je connais mieux, Jorge Luis Borges. Évoquer Borges pour parler de Cortázar n'a rien de choquant, même si cela peut en agacer quelques-uns, qui trouvent que Borges, décidément, prend beaucoup trop de place lorsqu'il est question de littérature argentine, si ce n'est de littérature tout court. Ils n'auront pas tout à fait tort. Mais en ce qui concerne Cortázar et Borges, l'un savait la dette qu'il devait à l'autre. Dans Les Gagnants, bien après le passage que j'ai lu tout à l'heure, figure par exemple cette phrase « Il est sûr qu'un ordre, à peine appréhensible par l'analogie, préside au chaos de poche où l'on trouve les adieux d'un chanteur à son frère, un fauteuil roulant, une pipe anglaise et un dentiste en vacances. Il a l'obscure certitude qu'il existe un point central d'où l'on peut voir chaque élément discordant comme un rayon de la roue. » Ce point central d'où l'on peut voir chaque élément discordant comme un rayon de la roue n'est-il pas un avatar de l'Aleph borgésien, cet Aleph qui se situe sous la 19e marche d'un escalier quelque part dans Buenos Aires, d'où il est possible de voir simultanément tous les points de l'univers. Ce n'est cependant pas l'Aleph que je vais évoquer ici, mais un des premiers contes que Borges a écrit, en 1934. Mon histoire suivante, indique-t-il dans son essai d'autobiographie, était à la fois un canular et un pseudo-essai. Il me semble aujourd'hui qu'elle annonçait, et même qu'elle fut le modèle de tous les contes qui, pour ainsi dire, m'attendaient et sur lesquels se fonda ma réputation d'auteur de nouvelles. C'est ainsi que Borges présente son conte, qui n'est d'ailleurs pas un conte, mais, comme dirait Jeannette, un pseudo-résumé, intitulé « L'approche d'Al-Mutasim », qui a toutes les apparences d'un simple compte rendu, sans effet stylistique, d'un livre intitulé « The Approach to Al-Mutasim » de l'avocat Mir Bahadur Ali de Bombay. Le texte est très ramassé, assez court, 7 pages en folio. Il est constitué de 5 parties, la cinquième étant une note de bas de page, en quelque sorte incluse dans la quatrième. Le compte rendu lui-même s'étend sur 3 pages, la moitié concerne les 2 premiers chapitres, l'autre moitié les 19 suivants, après avoir mentionné l'impossibilité d'en retracer toutes les péripéties. À la fin du 2e chapitre, nous est-il dit, le héros, un étudiant, décide de s'enfoncer dans l'Inde et de s'y perdre. La deuxième moitié de ce pseudo-résumé retrace la plongée aux enfers du héros parmi les gens de la plus vile espèce, jusqu'à la rencontre d'un homme qui paraît auréolé d'une grâce mystérieuse dont il serait par lui-même dépourvu, c'est donc quel est le reflet de celle d'un autre. Le héros se consacre alors à la recherche de l'homme dont procède cette clarté, qui n'est autre qu'Al-Mutasim lui-même. Cette quête est évoquée dans la dernière ligne du texte, qui développe l'idée d'une approche ardue et chaotique, jusqu'à une galerie, au fond de laquelle, derrière un rideau multicolore, se tient le saint homme. L'étudiant écarte le rideau et avance. Ici finit le roman. Cela n'étonnera aucun lecteur de Borges, nous sommes bien entendu dans un labyrinthe, dans la chambre centrale duquel se tient la révélation ultime, à condition que l'on soulève le voile, ici un rideau multicolore qui scie à toute figure mystique ou quasi-divine. De la même manière que pour Spinoza, le plaisir sexuel n'est pas une joie en direct, mais le reflet d'une joie ontologique plus vaste, la sainteté d'Al-Mutasim contaminait ceux qui l'approchaient, et son reflet se devinait dans des milliers de visages, des plus grossiers aux plus gracieux. C'est ainsi que l'étudiant indien a pu, en remontant la source de la sainteté comme un saumon qui fraye, parvenir jusqu'à celui dont on ne saura rien. Je ne dirais pas que Cortázar était un saint ou un mystique de la littérature, ni un saumon. Mais il a agi sur moi comme Al-Mutasim sur l'étudiant indien, les multiples péripéties de ses aventures en moins. Je ne l'ai jamais approché de près et davantage lu sur lui que de lui, et perçu dans ce que je lisais à son sujet ou dans les entretiens qu'il livrait, les multiples passerelles que je pouvais moi-même emprunter et dans le franchissement desquelles je m'estimais comblé, je me suis ainsi senti très vite, irrémédiablement attiré par lui, mais dans le même temps, comme empêché par ses étranges yeux de chat, peut-être au début, à le savoir, par les circonstances de la vie ensuite, par les urgences de lecture qui toujours m'éloignaient de lui, oui, empêché de pénétrer dans les méandres de son œuvre pourtant si manifestement proche, ou peut-être précisément à cause de cette proximité, avec toute l'attention requise, l'ayant plusieurs fois abordée, abandonnée, reprise, lâchée, n'ayant pas trouvé le grappin idéal, et chaque fois me disant qu'il fallait réessayer, toujours réessayer, que j'y trouverais mon compte. Mais il fallait que ce soit lent, que j'avance lentement vers lui, qui est si loin et si proche à la fois. À ce jour, il est resté pour moi l'almotassim dont la lumière inonde les visages textuels que je croise au fil de mes lectures le concernant. À présent, je remonte lentement vers la source. Je suis un saumon. Mon dos rosit peu à peu. Peu à peu, je l'approche. Peu à peu, je le lis. Car je sais bien qu'il est fait pour moi. On me l'a assez dit. Merci.